Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Et Yoma, page 37, Daf Lamed Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Uminaim chez Anna. Et d'où est-ce qu'on sait que le Kohen Gadol employait le terme de Anna qui veut dire je t'en prie ou s'il te plaît, qui théoriquement n'a rien à voir avec la confession, mais c'est une supplication. La Gemara répond, Neymar Khan Kapara, à propos de cette confession, la Torah emploie le terme de Kapara, obtenir le pardon, Neymar Lalam Bechorev, et à propos du Hegel qui a été fait quand le Béné Israël était dans Har Sinai, Chorev est un des noms du Har Sinai, Kapara, là-bas aussi, la Torah aussi emploie le terme de Kapara, c'est quand Moshe Rabbeinu a dit au Béné Israël, je vais monter implorer le pardon à Hachem. Alors, le pasouk dit, Oulai achapra be'achatatrem, peut-être j'arriverai à obtenir le pardon pour votre faute. Alors, male alam be'ana, de la même manière qu'à propos de cette tfila que Moshe Rabbeinu a faite pour obtenir le pardon sur le chetah, la faute du Hegel, il a employé le terme de Anna, je t'en prie. Le pasouk dit, Anna chata ha'amaze, je t'en prie Hachem, ce peuple a péché. Afkan Be'ana, alors là aussi à propos de la confession de Yom Kippour, le Kohen Gadol emploiera le terme de Anna. Uminaim Shebashem, et d'où est-ce qu'on sait que le Kohen Gadol devait employer le nom d'Hachem? Parce que, comme nous avons vu dans la Mishnah, il dit Anna Hachem. Alors, Neymar Khan Kapara, à propos de la confession de Yom Kippour, la Torah emploie le terme de Kapara. Neymar Begla Rufa Kapara. Et à propos de la fila que les Kohanim faisaient lors de l'abattage de la génisse d'un coup de hache sur la nuque quand on trouvait un mort dont on ne connaissait pas le meurtrier, la Torah emploie aussi le terme de kapara, qui veut dire obtenir le pardon. Mal à l'âme d'Hachem, de la même manière que là-bas, la Torah dit que les Kohanim employaient dans la fila le nom d'Hachem. Arkan Meshem, alors là aussi, à propos de la confection du Kohen Gadol à Yom Kippour, il employait aussi le nom d'Hachem. Amar a dit Abaye, Bishlama Chorev, on comprend bien qu'on n'apprenne pas la tfila de Moshe Rabbeinu sur le Har Sinai quand il a voulu se faire pardonner la faute du Hegel en le comparant à la tfila que les Kohanim faisaient à l'occasion de l'abattage de la génisse par un coup de hache sur la nuque. Et donc on pourrait se poser la question pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas employé le nom d'Hachem dans sa tfila, parce que Mai Dehava Hava, ce qui est du passé est passé. En d'autres termes, il n'y a pas à se poser de question pourquoi dans le passé une chose a été faite d'une manière ou d'une autre. Et là, Egla Arufa Tilaf Mechores, mais à propos de la tfila que les Kohanim faisaient à l'occasion de l'abattage d'une génisse par un coup de hache sur la nuque, on aurait pu se poser une question pourquoi on n'apprend pas cette tfila en la comparant à la tfila de Moshe Rabbeinu sur le Har Sinai quand il a voulu se faire pardonner le Hegel, et donc on aurait dû employer le terme de Anna, qui veut dire je t'en prie. La Gemara demande, je vais essayer de répondre, Hitema Hachinami, si tu veux me dire qu'effectivement on emploie le terme de Anna, c'est pas vrai, parce que Vehatnam, nous voyons dans une Mishnah de Masechet Sota, Hakohanim Omrim, les Kohanim disent, Kaper Leamcha Israël, pardonne à ton peuple, Klal Israël, Veilu Be'ana Lokama, et par contre, la Mishnah ne nous dit pas qu'ils employaient le terme de Anna, qui veut dire je t'en prie. La Gemara dit Kashia, effectivement c'est une bonne question, sur le moment on n'a pas trouvé de réponse. Vehen Oni Macharab. La Gemara reprend un passage de la Mishnah qui dit qu'à chaque fois que les personnes présentes dans la Zara entendaient sortir de la bouche du Kohen Gadol le nom d'Hachem, ils se prosternaient et disaient Baruch Shem Kvod Malchuto, l'Olam Vaed, c'était pour bénir le nom d'Hachem. Rappelons-le, c'était à trois reprises pendant cette confession que le Kohen Gadol disait le nom d'Hachem. La Gemara dit, Tanya, nous avons vu dans une braïta, Rebi Omer dit, le pasouk dit dans Ha'azinu, Kishem Hashem Ekra, Havu Godel Elokenu. La braïta traduit tout de suite, Amar Lahem Moshe l'Israël. Moshe Rabbeinu a dit au clan d'Israël, Besha Shani Mazkir, Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu, quand je mentionne le nom d'Hachem, Atem Havu Godel, vous dites les louanges de la grandeur de Hakadosh Baruch Hu. Hananiah ben Achi, Rabbi Yehoshua Omer, dit Zecher Tzadik Livracha, le souvenir du Tzadik sera une bénédiction. Alors là, Hanania, le neveu de Rabbi Yeshua, explique différemment. Amar Lahem Navi l'Israël. Le Navi a dit au Bnei Israël, Béchar, Shani Mazkir, Tzadik Olamim. Quand je mentionne le Tzadik suprême, c'est-à-dire il s'agit ici d'Akadosh Baruch Hu, Atem Tenu Bracha, vous dites une bénédiction sur le nom d'Hachem. Donc c'est ces deux endroits que nous apprenons qu'à chaque fois que les Bnei Israël entendaient le nom d'Akadosh Baruch Hu, quand le Kohen Gadol le prononçait, il devait dire Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaheh. Nouvelle Mishnah. Après cette confession, Ba Lo Le Mizrach HaAzara, le Kohen Gadol venait à l'est de l'Azara, l'Itzfon HaMizbeach, dans la partie qui était au nord du Mizbeach. Hasgal Mimino, le second en charge, était à droite du Kohen Gadol. Berosh Bet Av Mismolo, et le chef de la famille de Kohanim qui aurait été de service aujourd'hui, si ce n'était pas le jour de Yom Kippour, accompagnait le Kohen Gadol à sa gauche. Vesham Shnei Seirim, et là-bas, donc au bout de l'Azara, à l'est de l'Azara, il y avait deux boucs, dont un sera offert en tant que Korban Khatat, et dont le sang sera rentré dans le Kodesh HaKodeshim, et le deuxième sera le bouc émissaire, puisqu'ici il ne s'agit que de procéder au tirage au sort, comme il sera expliqué plus loin. On n'avait pas besoin de le faire entrer plus que ça dans l'Azara. De Kalfi Haïtacham, il y avait là-bas une sorte d'écrin, ou bas Shnei Goralot, et dans cet écrin, il y avait deux plaques qui allaient servir au tirage au sort. Veshelesh Kroa Hayu, et cet écrin et ces plaques étaient fabriqués en bois de Eshkeroa. Dassan Ben Gamla Shel Zahav, et quand Yeshua Ben Gamla a été nommé comme Kohen Gadol, il a fabriqué des plaques en or. Bayou Malkiri Moto Leshvar, et quand on mentionnait son nom, on disait des louanges à ce sujet. Ben Katim Asa Yud Bet Dad Le Kior, le Kohen qui s'appelait Ben Katim a fabriqué 12 robinets pour le Kior, chez Lo Hayal Lo El Ashnaim, parce qu'au départ, il n'avait que deux robinets. Cette action de Ben Katim a permis que beaucoup de Kohanim puissent se laver les pieds et les mains à la fois. Ve'afu Asa Mouchni Le Kior, il a aussi fait un creuil pour le Kior, chez Lo Yihyu Memav Mitzalim Belina, pour qu'on puisse plonger le Kior la nuit dans la source qui coulait en dessous de la Hazara, pour éviter que l'eau du Kior, qui avait donc eu la Kdusha d'un ustensile de service, le Kior était lui-même un ustensile de service, ne devienne pas soul une fois que la nuit passe. Ça s'appelle le Psoul de Lina. Mounbaz Hamelech, le roi, Haya Ose Kol Yadot Akelim Shel Yom HaKippurim Shel Zahav, a fait en sorte que tous les manches des ustensiles nécessaires pour le service de Yom Kippour soient en or. Hilni Imo, sa mère, Astan Ivreshet Shezahav Al Petach HaEchal, elle a fabriqué un candélabre en or qu'elle a fixé sur la porte du Echal. Ve'afi Astat Avla Shezahav, elle a fait aussi une plaque d'or chez Parashat Sota Ktuva Aleha, sur laquelle était inscrit le paragraphe relatif à la Sota. La Sota est une femme dont on soupçonne avoir commis l'adultère. On devait l'amener au Beth Amikdash. Il y avait là-bas toute une cérémonie qui se déroulait. Entre autres, on lui faisait prêter serment et on la maudissait. Ensuite, le Kohen devait écrire sur un parchemin le serment et la malédiction tel que c'est écrit dans le paragraphe qui parle de la Sota. Et ensuite, il effaçait ce parchemin dans une écuelle en terre cuite qui contenait de l'eau du Kior et de la terre. On lui faisait boire cette eau, et la Torah dit, si elle avait commis l'adultère, elle mourrait. Alors, Ihilni a écrit ce paragraphe sur une plaque en or pour éviter de sortir à chaque fois un Sefer Torah pour recopier ce paragraphe. Nikanor, Nasu Nissim Edal Totav. Nicanor, qui était une personnalité riche de l'époque, a eu le mérite de voir des miracles s'accomplir à propos de portes qu'il a voulu donner au Beth Amikdash, comme ce sera expliqué plus loin dans la Gemara. Et quand on mentionnait ceux dont on a, qu'on a mentionné dans la Mishnah, on disait leur louange. La Gemara dit, Midekamar letfon hamizbeach, puisque la Mishnah s'exprime en disant, quand le Kohen allait à l'est de la Hazara, au nord, elle ajoute aussi au nord du Mizbeach, et pas tout simplement au nord de la Hazara, Miklal de Mizbeach, la Betsafon Kai, on comprendra donc de là que le Mizbeach lui-même n'est pas situé au nord de la Hazara. Parce que sinon, il suffisait de dire Litzfon Hazara, au nord de la Hazara. La Gemara répond, effectivement, Mané Rabbi Eliezer ben Yaakovi. On voit donc que cette Mishnah va selon l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov, de Tania, parce que on va dans une braïta, Tzafona Lifnei Hashem. Le pasuk dit, il fera la shkita du Korban Ola sur le côté du Mizbeach, au nord, devant Hashem. Le He de Tzafona est en plus, il aurait très bien pu dire sur le côté du Mizbeach, Tzafon, on aurait très bien pu comprendre que c'est le nord. C'est pourquoi on comprendra que ce terme, en plus du fait qu'il veut dire le nord du Mizbeach, il veut dire, il veut parler du terme Tzafon, au sens large du terme. Nous avons vu à la fin du premier Pérec que le vent du nord dégageait les nuages. Alors nous comprendrons aussi, Sheye Tzafon Kulo Panoui, que le côté nord du Mizbeach était entièrement dégagé. C'est vrai, Rabbi Eliezer ben Yaakov, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Nous comprenons de là que le Mizbeach même n'était pas sur le côté nord de la Hazara. En fait, tout la moitié nord de la Hazara était entièrement dégagé. La Gemara demande, Veha, Recha, voici que nous avons dit que le début de la Mishnah, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, allait selon l'avis de Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, parce que nous avons dit que on pouvait faire la shrita du taureau du Kohen Gadol entre le Oulam et le Mizbeach, parce que même dans cette partie donc, entre le Oulam et le Mizbeach, c'est encore considéré le nord du Mizbeach, comme étant le nord du Mizbeach, et selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça ne marche pas, parce que si nous pensons que tout le Mizbeach était entièrement dans la moitié sud de la Hazara, donc entre le Mizbeach et le Oulam, il est évident que ce sera aussi considéré comme le sud. On ne pourra donc pas faire la shrita du taureau là-bas. La Gemara répond, Kula Rabbi Eliezer ben Yaakov. Nous dirons que toute la Mishnah ira selon l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Vetame, et il faudra enseigner ou interpréter comme ça dans la Mishnah plus haut, Beven Haolam Vela Mizbeach, c'est-à-dire, on ne mettait pas vraiment le taureau entre le Oulam et le Mizbeach, mais on le mettait dans l'espace qui correspond, l'espace qui est entre le Oulam et le Mizbeach, mais plus au nord. Et donc là, même selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est considéré aussi comme le nord, on peut faire là-bas la shrita de ce taureau. Hasgan bimino v'rosh petav v'smolo. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit que le Kohen Gadol allait vers l'est de la Hazara, accompagné du second en charge à sa droite, et du chef de la famille de Kohanim qui est de service aujourd'hui, à sa gauche. Amar a dit Rabbi Yehuda, Hamalech limin rabo, celui qui marche à la droite de son maître, Harezebou, c'est un ignorant, parce qu'il ne connaît même pas le minimum des règles de politesse. La Gemara de Montanan, voici que nous avons vu dans notre Mishnah, Hasgan bimino, Roj betav bismolo, nous voyons donc que le Kohen Gadol allait accompagné du second en charge à sa droite et du chef de la famille des Kohanim à sa gauche. Donc nous voyons que on peut se mettre à côté de son maître. Ve'od, Tanya, et voici que nous avons encore une braïta, Shlosha Shayom Malchim Bader, il y avait trois personnes qui marchent ensemble, qui vont ensemble en chemin. Harab Baemta, le maître se placera au milieu. Gadol Bimino, et parmi les élèves, donc le plus grand sera, accompagnera le Rab à sa droite. Gadol Vekatan Mismolo, et le plus petit des élèves accompagnera le maître à sa gauche. Vechem Matinu Bishlosha Malachi Asharet, on a trouvé ainsi à propos des trois anges chez Baouet et Abraham qui ont rendu visite à Abraham à Vinou. Michael Baemta était au milieu, Gabriel Bimino l'accompagnait à sa droite, Urfael Bismolo l'accompagnait à sa gauche. Donc nous voyons que on peut accompagner son maître même étant à côté de lui. La Gemara répond, Tirguma a interprété Rav Shmuel bar Papa comme il est Rabada devant Rabada que des Shit Kase Borabo. En fait, il ne se mettra pas à côté de son maître, donc à droite ou à gauche, mais derrière le maître. C'est en fait, c'est ça que la Braïta a voulu dire. Si donc le maître marche devant et ses deux élèves qui suivent par derrière, le plus grand sera à droite et le plus petit sera à gauche. Alors là aussi dans notre Mishnah, nous dirons la même chose. Que le Kohen Gadol partait accompagné du second à sa droite et du chef de la famille des Kohanim à sa gauche, là aussi, en fait, ils étaient derrière lui. Alors la Gemara demande, Tanya Batik, vous en avez dans une Braïta, Hamalek Keneged Rabo, celui qui marche vis-à-vis de son maître, donc à côté de son maître, Harezebo, c'est un ignorant, il ne connaît même pas les règles du minimum de politesse. Achore Rabo, Harezemegaseruach, celui qui marche derrière son maître, est un orgueilleux parce qu'il montre qu'il donne l'impression qu'il ne veut pas servir son maître. Donc on voit quand même marcher derrière son maître, ce n'est pas bon. Gmar répond, de Metsadez à Tzoudé. Effectivement, il n'ira pas, il ne marchera pas derrière son maître, mais en biais. C'est-à-dire, l'élève sera à la droite ou à la gauche de son maître, mais un peu en retrait vers l'arrière. Vekalfia et Hacham ou Vachnegoralot. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit qu'il y avait là-bas un écrin, et dedans il y avait des plaques qui servaient au tirage au sort. Tanu Rabbana, Chachamim ont enseigné aux Imraïta. Venatan, Aharon al-Shne Aseirim Goralot. Et Aharon placera sur les deux boucs des sorts, donc des plaques qui servaient au tirage au sort. Alors, la Braïta interprète, Goralot sur le col d'Avar, il pourra fabriquer ces plaques qui serviront au tirage au sort avec n'importe quelle matière. La Braïta demande, Yachol, Iten, Shnaim al-Zeh ou Shnaim al-Zeh, puisque le Pasuk nous parle au pluriel, parce que le Pasuk parle de placer des sorts sur les deux boucs, on pourrait très bien comprendre que sur chacun des deux boucs, il placera deux plaques servant au tirage au sort. Talmud Lamar, c'est pourquoi le Pasuk précise par la suite, Goral Echad Lachem, Ve Goral Echad Lazazel. Donc un sort sera pour Hachem et un sort désignera l'animal qu'on enverra dégringoler dans la montagne. Alors, puisque le pasouk s'est exprimé là au singulier, on comprendra que Enkan Lachem et la Goral Echad, il y a donc une seule plaque sur laquelle sera écrit Lachem, Venkan Lazazel et la Echad, il y aura une seule plaque sur laquelle est écrit Lazazel. La Braïta demande, Yachol Iten, Shelchem, Beshel, Azazel, Alze, Beshel, Shem, Beshel, Azazel, Alze. Alors, puisque le pasouk au début s'est exprimé au pluriel, on pourrait toujours comprendre qu'au début, il placera la plaque sur laquelle est écrit la chaîne, sur un des boucs, et celle où s'est écrit l'Azazel sur le deuxième bouc, et après, il changera, donc posera celui sur lequel est écrit la chaîne sur le deuxième bouc, et celui sur lequel est écrit la Zazel sur le premier bouc. Et donc, après, il pourra choisir lequel des deux envoyer dégringoler dans la montagne et lequel sera offert dans le Beth Amikdash. Talmud Lomar, c'est pourquoi le pasouk précise, Goral Echad d'Hachem, il y a un seul tirage au sort pour Hachem, le terme de Echad étant trop, c'est pourquoi on interprète ça de cette manière, En Kan Lachem El Echad, il y aura un seul tirage au sort pour désigner l'animal qui sera offert dans le Beth Amikdash, En Kan Lazazel El Echad, il y a un seul animal qui sera désigné pour qu'on envoie dégringoler dans la montagne. Imken Matalmud Lamar Goralot, pourquoi la Torah emploie le terme de Goralot au pluriel? Chez Yushavim, il faudra que les deux plaques soient égales. C'est-à-dire, Shelo Yashpe Echad Shel Zahav Echad Shel Kesef, il ne fera pas une plaque en or et une plaque en argent, Echad Gadol Echad Katal, ou une grande plaque et une petite plaque. La Gemara reprend le passage de la Bretta qui dit que Goralot Shel Kol Davar, il pourra faire ses plaques de n'importe quelle matière. Pita, il est évident qu'il peut employer n'importe quelle matière. La Gemara répond, Lotricha. En fait, on a besoin de cet enseignement, comme la Bretta le dit. L'Eg de Tanya, comme on voit dans une Bretta, les filles chez Matsinou Betzitz, puisqu'on trouve à propos du titre chez Hachem Katouvalav, où est écrit le nom d'Hachem, Veu Shel Zahav, et devait être fabriqué en or, on aurait pu croire aussi que là, puisqu'à propos d'un des sorts, il est écrit, et sur un des sorts, il sera écrit le nom d'Hachem, donc on devra les fabriquer en or, puisque les deux doivent être égaux, donc même le deuxième sur lequel est écrit la Azazel, aussi, il faudra le fabriquer en or, Talmud Lomar, c'est pourquoi le Pasuk nous enseigne Goral, Goral, il a répété plusieurs fois le terme de Goral, alors que c'est en trop, on aurait très bien pu dire que Aaron mettra sur les deux boucles des plaques pour désigner un tirage au sort, et Chad Lachem, et Chad Lazazel. Alors, Riba, ça vient nous inclure plus de possibilités. Riba Shel Zahid nous a inclus la possibilité de fabriquer ces plaques en bois d'olivier. Riba Shel Egoz aussi inclut la possibilité de fabriquer ces plaques en bois de noyer. Riba Shel Eshkeroa, on a le Pasuk a aussi inclus la possibilité qu'on fabrique ces plaques en bois de Eshkeroa. Ben Katina Sash Nemasar Dal Kior, et moi on reprend le passage de la Mishnah qui dit que Ben Katina a fabriqué 12 robinets pour le Kior. Tana, dans ce Nézun Baita, Kede Sheyu Shnemasar Echava Kohanim, pour que 12 de ses frères les Kohanim, Hasukim et Tamid qui devaient s'occuper de l'offrande du Korban Tamid, mais Katshim, Yedem, Raglem et Batechas, puissent se sanctifier les pieds et les mains en se lavant du Kior en une fois. Tana, la Breta, on l'a vu dans une Breta, cette Breta nous parle de l'époque avant que Ben Katin ait fait 12 robinets, donc à l'époque il n'y avait que 2 robinets. Alors ces 2 robinets étaient situés, un en haut du Kior et l'autre plus vers le bas. Alors Shacharit, des milouos, le matin, quand le kior était encore plein, les kadesh adav raglav min alion, ils se sanctifiaient les pieds et les mains en se lavant avec de l'eau du kior en employant le robinet du haut. Arvit biridato, le soir, quand le kior était déjà vide, les kadesh adav raglav min ataton, ils se sanctifiaient les pieds et les mains en employant le robinet inférieur. Ve'afu asa mukhni le kior. L'Agma reprend le passage de la Mishnah qui dit que lui aussi a fait une poulie pour le kior. Mai mukhni, que veut dire le terme de mukhni? L'Agma répond, Amar abaye, gilgela, une roue, donc une poulie, de'ahap meshakale, avec l'aide de laquelle on pouvait plonger le kior dans la source qui coulait en dessous de la Hazara. Munbaz asa kol yadot akelim, etc. L'Agma reprend le passage de la Mishnah qui dit que Munbaz Amelech a fait en sorte que tous les manches des ustensiles qu'il servait au service de Yom Kippour soient en or. L'Agma demande, puisqu'il était tellement riche et qu'il voulait offrir au Beit HaMikdash, Ne'avdin hu ledidhu dezahav, pourquoi il n'avait qu'à fabriquer les ustensiles eux-mêmes en or, pourquoi il n'a que fabriqué les manches en or?
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Lamedzan Amudbet. L'Agma répond, Amaradé Abaye, Beyadot Sakinim, il s'agissait ici de manches de couteau. Nous savons que le couteau lui-même ne devait pas être en or, parce que c'est un or trop, c'est un métal trop mou. C'est pourquoi il a voulu donner de l'or, qu'au moins les manches des couteaux soient en or. Mais qui veut, la Gemara demande, d'une braïta, à afouassa, kanekelim, veognekelim. Il a aussi donné de l'or pour que les bases et les anses des ustensiles soient en or. Et cela, comme le Tosot Eshanim et le Meiri expliquent, parce qu'à l'époque, ils employaient des métaux moins précieux pour fabriquer les bases et les ustensiles. Ve'adot kelim, ve'adot sakinim shel yom kippourim shel zahab. Et aussi les manches des ustensiles et des couteaux qui servaient donc pour le service de Yom Kippour, les a fabriqués donc en or. Alors là, pour les manches des ustensiles et des couteaux, puisque même à l'époque, ils employaient le même métal. Donc là, revient la question, puisque à quel ustensile on faisait attention, on faisait allusion dans la Breita, puisque la Breita a cité spécialement les manches de couteau. L'Agma répond, Turguma a interprété Abaye, Bekateta, de Nargé, Bechatine. Il s'agissait ici de manches de haches et de gros couteaux qui servaient dans la boucherie pour couper pour découper les animaux qui avaient été offerts en tant que corban. Hilani imo asta nivresh et tzav. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit que Hilani sa mère a fabriqué un candélabre en or. Tana, enseigné dans une Breita, Bisha Shachama Zorachat, quand le soleil se levait, Nitsotot Yotimemena, alors le soleil tapait sur ce candélabre et renvoyait des éclats de lumière de tous les côtés, Vakol Yodim, Shigiazman Kirachema, et tout le monde savait qu'est arrivé le moment où on peut lire le chemin. Mais Tivé, Nagma demande une question d'une Breita, Hakor et Shema Shachari, celui qui lit le Kirat Shema du matin, Im Anshe Mishmar, avec les Kohanim, qui font partie de l'équipe de service, dans le Beit HaMikdash, Ve Anshe Ma'amad, et avec les gens qui font acte de présence pour l'offrande du Korban Tamid, Lo Yatsa, il n'a pas accompli sa mitzvah. Pourquoi? Mipnei Anshe Mishmar Mashkimim, parce que les Kohanim qui font partie de l'équipe de service lisent le chemin très tôt, donc même avant que le soleil se lève, de peur que le service de Beit HaMikdash se prolonge plus que prévu et donc il ne puisse plus lire le chemin. Ve'anshe Ma'amad Me'acharim, et les gens qui devaient faire acte de présence pendant l'offrande du Korban Tamid lisaient le chemin très tard parce qu'ils attendaient que le Korban Tamid soit offert pour lire le chemin. Donc finalement, à qui servait ce candélabre qui avait été accroché dans le Beit HaMikdash, puisque de toute façon, les personnes théoriquement présentes dans le Beit HaMikdash le matin ne faisaient pas attention à ce candélabre, ils lisaient chacun le Kriyat Shema quand ils le pouvaient. L'Agma répond, Amar Adi Abaye, Lishav, Amar de Birushalayim. Ce candélabre était servait pour les autres habitants de Yerushalayim qui venaient assister à l'offrande du Korban Tamid. Et puisqu'il n'avait pas quelque chose de spécial à faire, donc dès que le soleil brillait sur ce candélabre, il savait que le moment était arrivé pour lire le chemin. Ve'af hi asta tavla. Maintenant, on reprend le passage de la Mishnah qui dit qu'elle a aussi fait une plaque en or sur laquelle était écrit le paragraphe concernant la sota. La Gemara demande, puisque Hilni a écrit une plaque d'or le paragraphe concernant la sota, elle a été louée pour cette action. Shmat Mina, on comprendra de là, Kotvin Megillah Letinok Litlametba, on a le droit d'écrire un passage de la Torah sur un parchemin pour qu'un enfant l'emploie pour l'apprendre. En fait, il y a une discussion à ce sujet dans Maseret Gittin, la première. Le deuxième avis dit qu'on ne peut jamais écrire moins que toute la Torah dans son entité. La Gemara répond, Amar Adi Resh Lakish Mishum Rabbi Anai Be'alev Bet. Là, elle n'a pas écrit ce paragraphe en entier, mais elle l'a écrit en abrégé, c'est-à-dire la première lettre de chaque mot de ce paragraphe. Metive, la Gemara demande, voici qu'on voit dans une braïta, Kshu Kotev, quand le Cohen voulait écrire ce paragraphe de la Sota, Roev Kotev, Mashekatu Betavla, il regarde et recopie ce qui est écrit sur cette plaque. Donc on voit que sur la plaque était écrit le paragraphe en entier. L'Agma répond, Emma, on interprétera ou on lira dans cette Breita différemment, c'est Roé, il regarde cette plaque, le Kotev, Kema Shekatsu Betavla, écrit comme ce qu'il est écrit sur cette plaque, c'est-à-dire ce à quoi la plaque fait allusion. C'est-à-dire, il regarde les abréviations, et selon ces abréviations, il écrit le texte en entier. Métivé, la Gemara demande d'une autre braïta, Kriou Kotev, quand le Kohen devait écrire, Roé, il regardait la plaque, le Kotev Mashekatou Betavla, et recopiait ce qui est écrit sur la plaque, ou Makatou Betavla, et qu'est-ce qui est écrit sur la plaque, Im Shachav Ishotach, si un homme a couché avec toi, Vim Lo Shachav, etc. Vim Lo Shachav, et si un homme n'a pas couché avec toi, etc. Im Satit, si tu t'es détourné du droit chemin, etc. Im Lo Satit, si tu ne t'es pas détourné du bon chemin, etc. En fait, il n'y a pas de psukim qui s'exprime de cette manière, mais en fait, la Braïta nous parle du sens de ce que la Torah dit, et effectivement, la Torah fait ressortir le fait que si elle a fauté, elle sera punie, et si elle n'a pas fauté, elle sera acquittée. Alors, les psukim sont Im lo shachav ishotach, si un homme n'a pas couché avec toi, Im lo satit, si tu ne t'es pas détourné du mauvais chemin, etc. Donc tu seras acquitté. Et puis après, le pasouk dit Ve'at ki satit, et toi, si tu t'es détourné du bon chemin, donc aussi on comprend qu'un homme a couché avec toi, alors tu seras puni, comme la Torah le décrit plus loin. En tout cas, nous voyons que les psukim, les passages entiers de la Torah, étaient écrits sur cette plaque. Donc comment est-ce que tu peux dire que cette plaque était écrite en abrégé? La Gemara répond Hatam Besirugi. Effectivement, certains passages étaient écrits, mais pas entièrement. C'est-à-dire, elle avait écrit le début du pasouk, par exemple, Im Loshachabishotah, et puis le reste était écrit en abrégé. Et puis le début du deuxième pasouk était écrit aussi, les quelques premiers mots, puis le reste est écrit en abrégé, donc on n'avait pas de passage complet de la Torah écrit sur cette plaque. Et là, selon tout le monde, et tout le monde est d'accord que ça, on avait le droit de le faire. Nous avons fini le shiur de Yuma Daf Lamed Zayin.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.